On a chanté tout à l'heure dans la louange que Jésus est l'agneau de Dieu, Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Mais Christ, Jésus-Christ, est aussi le lion de Juda. C'est aussi ce qu'on voit dans la parole de Dieu. La semaine dernière, Pierre, il nous a introduit le livre d'Amos. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avec un grand rugissement. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Et il nous a posé une question que je vous remets sur le cœur ce matin. Est-ce que l'Éternel entend l'injustice? Est-ce que notre Dieu est sensible à ce qui se passe dans notre monde, à toutes ces injustices? Est-ce qu'il voit tout ça de son trône? Alors aujourd'hui, on va aborder la suite du livre d'Amos, Amos 1, du verset 3 au chapitre 2, le verset 3. Alors, quand j'ai préparé ce texte, ma première lecture, je me suis dit, oulala, ouais, alors c'est un texte qui est ardu. Première lecture, pas très claire, peu compréhensible. Mais en cherchant, en creusant, eh bien, j'ai été surpris de constater qu'il était riche en enseignement. La parole de Dieu, ce que Dieu dit, ce que Dieu a inspiré à une quarantaine de personnes qui a été mis dans la Bible, qui est la parole de Dieu, c'est vraiment un trésor. Et j'aimerais nous encourager chaque jour à l'ouvrir, à la creuser, à la méditer, parce qu'elle est vraiment riche, à nous enseigner plein de choses. Ce qui est aussi intéressant de se souvenir, c'est que la parole explique la parole. La parole explique la parole. Quand il y a des textes ardus, cherchons dans l'ensemble de la Bible les explications, parce que la parole explique la parole. Alors Pierre, la semaine passée, il nous a relaté le contexte d'Amos, il a introduit ce livre. Et puis, il nous a affiché, je vais voir, est-ce que ça marche? Voilà. Il nous a dit que Amos, il a eu son ministère pendant à peu près 5 ans, aux alentours de 760 avant Jésus-Christ, du temps du roi de Jéroboam II pour le royaume du nord d'Israël et du temps d'Ozias pour le royaume du sud de Juda. Alors, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, je ne sais pas si ça vous a déjà fait ça, mais particulièrement dans les prophéties, mais surtout dans le livre des Rois et des Chroniques, quand on commence à parler des différents rois, eh bien, on peut rapidement s'embrouiller l'esprit. Hein. Et moi, j'ai trouvé qu'en utilisant des cartes chronologiques, comme il y en a une devant vos yeux, ça nous aide beaucoup à nous en sortir. Ces cartes, elles sont vraiment très pratiques pour nous aider à la compréhension de ce que l'on lit. Alors, je vous ai amené ce matin sur la paroi là-bas. J'ai mis des différentes cartes chronologiques que j'ai mis bout à bout comme ça. Elles sont affichées. Vous avez comme ça une ligne du temps. Le grand sablier de l'humanité. Ce grand sablier de l'humanité commence à la création et va jusque dans l'éternité. Pour tous les hommes. Tous les hommes iront jusque dans l'éternité. Ce n'est pas comme la chanson populaire qui dit « On ira tous au paradis ». Ça, c'est faux. On n'ira pas tous au paradis. Par contre, on ira tous dans l'éternité. Ceux qui auront cru en Jésus-Christ passeront l'éternité dans sa présence, et ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, qui refusent Christ, passeront l'éternité séparés de sa présence. Alors on voit, là je vous avais que la ligne du temps de Abraham jusqu'à Jésus-Christ. Et vous voyez, dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé. Il a parlé, et à un moment donné, il y a eu un silence pendant 400 ans, jusqu'à Jésus, jusqu'à ce que Christ vienne. Alors, on trouve les différents éléments que pour beaucoup vous connaissez, hein, il y a Abraham, il y a les prophètes, il y a la période des rois. Et ces cartes, ils nous aident à vraiment bien comprendre l'Ancien Testament. Quand on les prend sous les yeux, ça nous aide. Particulièrement, je prends un exemple, Amos, il a vécu par là, mais juste avant, il y a les rois d'Israël, les deux royaumes, comme nous a expliqué Pierre la semaine passée. Et à un moment donné, quand vous lisez les rois, il est question d'un roi qui s'appelle Joas dans le royaume du nord, mais un roi qui s'appelle aussi Joas dans le royaume du sud. Alors il faut bien s'accrocher dans le texte, hein, pour vraiment discerner les choses. Donc ces cartes sont vraiment utiles. Notre Dieu, avant qu'il ait créé toute chose, il est hors du temps, hors du grand sablier de l'humanité. Et avant même qu'il crée toute chose, il voyait toute sa création, tout ce qui allait se passer. Cette ligne du temps, il l'avait devant les yeux. Il savait tous les événements qui allaient se passer, tous les possibles, tous les pensées, tous les actes de chaque être humain. Il savait absolument tout ça. Et lui a réussi à composer l'histoire tout en laissant, dans sa souveraineté, tout en laissant la liberté aux hommes. L'homme est pleinement libre de ce qu'il fait, pleinement libre de ses choix, et lui a composé l'histoire tout en laissant la liberté aux hommes. Et de toute éternité, quand il réfléchissait à tout ça, Christ a dit, « Père, moi je vais aller à ce moment-là pour donner ma vie sur la croix. » On va voir ça un petit peu plus après. Mais cela nous aide à comprendre, souvent quand on lit les textes de la prophétie, notre Dieu est pleinement souverain, 100%. Il est assis sur son trône, il règne. Il est au contrôle de toutes choses, il est pleinement souverain. C'est une vérité biblique. Mais une autre vérité biblique, c'est que l'homme est complètement libre de ses choix. Complètement. Il est libre de ses choix. Et Dieu compose dans sa toute-puissance, dans sa prescience, parce qu'il sait toutes choses depuis toute éternité, il compose l'histoire de l'humanité avec cela. Pierre, la semaine passée, il nous a parlé des différents royaumes qui entourent Israël. Il y a 6 royaumes qui entourent Israël qu'on va voir ce matin. C'est l'objet de notre texte d'Amos. 6 prophéties sur 6 pays qui entourent Israël. Alors, je vous propose que on les prenne les uns après les autres et qu'on regarde qu'est-ce que ces textes ont à nous dire. Alors le premier, il s'agit de Damas. Voici ce que dit l'Éternel. À cause de 3 crimes de Damas, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision parce qu'ils ont écrasé Galad sous des traîneaux de fer. J'enverrai le feu dans la maison de Hazaël. Et il dévorera les palais de Ben-Hadad. Je briserai les verrous de Damas. J'exterminerai de Bikas-Heven les habitants et de Beth-Eden celui qui tient le sceptre. Et le peuple de Syrie sera exilé à Kir, dit l'Éternel. Alors Damas, c'est la Syrie. C'est le royaume qu'on voit entouré en rouge. Hein. Et dans ce texte que l'on vient de lire, il y a 2 personnages, 2 rois qui ont vécu un peu avant Amos. Il s'agit de Hazaël et son fils Ben-Hadad. Le prophète Élisée, plusieurs années avant, a pleuré en prophétisant et en annonçant à Hazaël ce qu'il fera. On voit là, hein, Ben-Hadad, cette carte chronologique qui nous aide à situer dans le temps quand a vécu Hazaël et quand a vécu Ben-Hadad par rapport à Amos, et le prophète Élisée qu'on voit aussi sur cette carte chronologique. Et le prophète Élisée a prophétisé sur Hazaël avant même qu'il soit roi. Il lui a dit, Hazaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Et Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leur ville forte. Tu tueras avec l'épée leurs femmes, leurs jeunes gens, pardon. Tu écraseras leurs petits-enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Plutôt cruel tout ça, hein? Plutôt cruel. Alors ce texte, il nous montre l'extrême cruauté dont a fait part Hazaël et après son fils sur les enfants d'Israël. Une extrême cruauté contre Israël. Alors Dieu annonce son jugement sur Damas et sur la Syrie. Pourquoi ? Eh bien parce que qu'est-ce que Dieu leur reproche ? Il leur reproche justement cette extrême violence que les Syriens ont eue contre Israël, leur extrême cruauté. Alors dans les conflits actuels d'aujourd'hui, il y a aussi des actes inhumains qui sont commis. Alors moi souvent je me dis, on parle de crimes de guerre bien sûr, hein, mais je me dis, est-ce que la guerre est propre ? Est-ce qu'on peut faire, non, quand il y a la guerre, c'est terrible. Mais il y en a dans la guerre qui font preuve d'une extrême cruauté. Et c'est ce que nous appelons aujourd'hui les crimes de guerre. Mais Dieu voit cela. Dieu voit tout cela. On peut en être sûr. Et tôt ou tard, Dieu fera justice. On peut en être complètement sûr. C'est une certitude. Notre Dieu fera justice. Il n'est pas insensible à tout cela. Le deuxième pays dont parle notre texte de ce matin, c'est Gaza. Voici ce que dit l'Éternel. À cause de 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision, parce qu'ils ont fait une foule de prisonniers pour les livrer à Édom. J'enverrai le feu dans les murs de Gaza, et il en dévorera les palais. J'exterminerai d'Ashdod les habitants, et d'Ascalon celui qui tient le sceptre. Je tournerai ma main contre Écron, et le reste des Philistins disparaîtra, dit le Seigneur l'Éternel. Gaza, c'est les Philistins. Alors, dans l'histoire d'Israël, on voit beaucoup de textes où les Philistins attaquent Israël. Ils ont beaucoup été en guerre contre Israël, contre Juda. Et puis, on connaît des récits célèbres de ces guerres. C'est David contre le géant Goliath le Philistin. Alors, ces Philistins, ils menaient des raids contre Israël. Excusez, j'ai un chat dans la gorge. Les Philistins menaient des raids contre le peuple d'Israël, contre les Judéens, et ils capturaient des hommes, ils capturaient des femmes, des enfants, et qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils les vendaient comme esclaves à Édom, tout au sud. Édom, c'était un grand carrefour commercial à l'époque. On y faisait du commerce d'esclaves pour l'Arabie. C'était une plaque tournante commerciale. Et les Philistins, ils vendaient à Édom les gens qu'ils avaient capturés, hommes, femmes et enfants, pour qu'ils soient esclaves. Alors Dieu annonce un jugement sur Gaza et sur les Philistins. Et qu'est-ce qu'il leur reproche ? Il leur reproche justement de faire du trafic d'êtres humains. C'est ce que Dieu reproche aux Philistins. On va voir encore un autre pays, Tyr, pays alentour d'Israël. Voici ce que dit l'Éternel, à cause de 3 crimes de Tyr, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision, parce qu'ils ont livré à Édom une foule de prisonniers, sans se souvenir de l'alliance fraternelle. J'enverrai le feu dans les murs de Tyr, et il en dévorera les palais. Alors Tyr, c'est les Phéniciens. Et il faut prendre des textes, justement dans le livre des rois, pour voir qu'au temps de David, le roi Hiram, à l'époque de David, il était roi de Tyr à cette époque-là, et il a envoyé
au roi David beaucoup de cèdres et des charpentiers, des tailleurs de pierre pour construire la maison, un palais à David. Et du temps de Salomon, pardon, fils de David, il y a eu beaucoup d'échanges commerciaux entre Israël et les Phéniciens et Tyr. Il y avait des échanges et Tyr a fourni aussi beaucoup de matériaux pour la construction du temple. Il y avait une alliance entre les deux pays. On voit ça dans 1 Roi 5. Dans le chapitre 5 des Rois, on voit qu'il y avait ces échanges commerciaux entre Hiram et le roi Salomon. L'Éternel, 1 Roi 5, 12, l'Éternel donna de la sagesse à Salomon, comme il le lui avait promis. Et il y eut paix entre Hiram et Salomon, et ils firent une alliance ensemble. Il y avait une alliance entre les Phéniciens et entre Israël. Et les deux pays vivaient en paix. Et Dieu annonce un jugement du temps d'Amos contre Tyr. Pourquoi ? Eh bien, parce que Tyr et les Phéniciens ont à un moment donné oublié cette alliance. Volontairement, ils ne se sont plus souvenus de cette alliance. Et les prisonniers qui étaient faits en Israël, ils les vendaient à Édom. Abandon de l'alliance, trafic d'êtres humains. Voilà ce que Dieu reproche aux Phéniciens. Parlons d'Édom. Voici ce que dit l'Éternel. À cause de 3 crimes d'Édom, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision. Parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée en étouffant sa compassion. Parce que sa colère déchire toujours et qu'il garde éternellement sa fureur. J'enverrai le feu dans tes mains et il dévorera les palais de Botsra. Édom, ce sont les Édomites. Qui est Édom? Le peuple édomite, ce sont les descendants d'Ésaü. Vous savez, Ésaü, celui qui a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. C'est le frère de Jacob. Édom, les Édomites, ce sont des frères d'Israël. Alors il faut qu'on se souvienne de ce qu'on a lu tout à l'heure. C'est que les Philistins à Gaza et Tyr avec les Phéniciens, ces deux peuples vendaient des esclaves à Édom. Et Édom, eh bien, il les vendait plus loin, en Arabie. Il faisait du commerce avec ses esclaves, avec les esclaves qui sont leurs frères. Dieu avait dit à Israël, « Tu n'auras pas Édom en abomination, car il est ton frère. » Dieu avait dit aux Israéliens, « Souviens-toi que Édom, ce peuple, c'est ton frère. Donc, ne pars pas en guerre contre lui. » C'est ton frère. Mais par contre, eux, les Édomites, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont oublié que c'était leurs frères et ils ont traficoté au niveau des êtres humains. C'est ce que reproche Dieu. Dieu annonce un jugement sur Édom contre les Édomites. Ils ont manqué de compassion. Ils ne se sont plus souvenus de l'alliance, que c'était leurs frères. Elles avaient beaucoup de colère, de fureur contre le peuple d'Israël. C'est intéressant aussi de voir quand Jacob a trompé Ésaü. Il était en colère. Il était en colère contre Jacob, en colère contre Israël. Ce peuple Édom avait beaucoup de colère contre Israël, jusqu'à faire du trafic d'êtres humains, hommes, femmes, enfants. Dieu leur reproche cela. Alors, est-ce que vous pensez que l'esclavage existe encore aujourd'hui? Ah oui, malheureusement, oui. Selon l'Organisation internationale du travail, 50 millions de personnes vivaient en esclavage moderne en 2021. Et selon cette estimation, 28 millions étaient soumis à du travail forcé. Et 22 millions, ce sont des femmes piégées dans des mariages forcés. Bon, alors vous allez me dire, ok, mais ça, c'est bien loin de nous. C'est pas dans notre pays. Eh bien, détrompez-vous. Si vous regardez sur Internet, vous allez sur la RTS, ils ont fait des émissions sur ce sujet, et on peut voir qu'en 2024, il y avait en Suisse 201 victimes recensées de traite d'êtres humains en Suisse. 73% de ces victimes sont des femmes. Et puis, qu'est-ce qu'on va dire du trafic forcé de femmes pour la prostitution? Elles sont très nombreuses. Allez voir au mois de mai 2025 l'émission qui a été faite par la RTS sur ce sujet. Ça existe en Suisse, où on prend des jeunes femmes, par exemple, dans les pays de l'Est, on leur vole leur passeport, elles sont violées, battues et forcées à la prostitution en Suisse. Sur Ammon, voici ce que dit l'Éternel. À cause de 3 crimes des Ammonites, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision, parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galaad afin d'agrandir leur territoire. J'allumerai le feu dans les murs de Rabba, et il en dévorera les palais au milieu des cris de guerre, le jour du combat au milieu de l'ouragan, le jour de la tempête. Et le roi partira en exil, lui et ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Alors Ammon, ce sont les Ammonites. Abraham, il avait un neveu, Lot. Et Lot est allé vivre à Sodome. Vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, Genèse, Sodome et Gomorre. Il faisait des abominations aux yeux de l'Éternel jusqu'à un moment donné où Dieu a dit « ça suffit ». Et il a envoyé son jugement sur Sodome et sur Gomorre. Lot a pu échapper à ce jugement. Dieu les a épargnés. Il devait fuir sans se retourner. Et qu'est-ce qui s'est passé? La femme de Lot, elle s'est retournée, elle a été changée en statue de sel. Et on peut voir dans les textes suivants le premier inceste recensé dans la Bible. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Bravo. L'aîné eut un fils qu'elle appela Moab. C'est l'ancêtre des Moabites, qui existe encore aujourd'hui. La cadette aussi eut un fils qu'elle appela Ben-Ami. C'est l'ancêtre des Ammonites. Donc les Ammonites et les Moabites, ce sont les fils de Lot. Ce sont les fils de Lot. On peut voir aussi dans Deutéronome 2,19, tu t'approcheras des enfants d'Ammon. Ça a été dit lorsque le peuple d'Israël allait à la conquête du pays, de leur pays, du pays de Canaan. Et ils ont passé à côté de Ammon et Dieu leur a dit, tu t'approcheras des enfants d'Ammon. Ne les attaque pas et ne t'engage pas dans un combat avec eux, car je ne te donnerai rien à posséder dans le pays des enfants d'Ammon. C'est aux enfants de Lot que je leur ai donné en propriété. Dieu, malgré tout, a reconnu un territoire pour les fils de Lot, le royaume d'Ammon, et Dieu a demandé aux enfants d'Israël de ne pas attaquer le royaume d'Ammon parce qu'il leur reconnaissait leur territoire. Cependant, on peut lire ça dans Deutéronome 23,3, l'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la dixième génération et à perpétuité. Reconnaissance territoriale, mais ils n'avaient pas le droit d'aller célébrer un culte avec les enfants d'Israël. Ils étaient exclus du culte en Israël. Alors Dieu annonce aussi un jugement sur Ammon et les Ammonites. Et qu'est-ce qu'il leur reproche ? Eh bien sûr, leur grande cruauté. Ils ont éventré des femmes enceintes. Ils sont partis en guerre contre Galaad, une tribu du royaume d'Israël qui était juste à côté des Ammonites. Et pourquoi ils sont entrés en guerre ? Eh bien, parce qu'ils voulaient agrandir leur territoire. Ils n'étaient pas contents de ce que Dieu avait déjà reconnu comme territoire pour eux. Ils en voulaient plus. Et ils ont utilisé une grande cruauté, une grande violence pour obtenir cela. Et Dieu leur dit non. Et Dieu prophétise par la bouche d'Ammon sur ce peuple. Il leur reproche cette grande cruauté et cette grande ingratitude. Encore sur Moab. Voici ce que dit l'Éternel. À cause de 3 crimes de Moab, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision. Parce qu'il a brûlé, calciné les os du roi de Moab, j'enverrai le feu dans Moab. Il dévorera les palais de Kiriot, et Moab mourra au milieu du tapage, au milieu des cris de guerre et du bruit de la trompette. J'exterminerai le juge du milieu d'elle, et je tuerai tous ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Alors, Moab, ce sont les Moabites, on l'a vu, hein, c'est les frères de Ammon qui sont fils de Lot, comme on vient de le voir tout à l'heure. Et il ne leur est pas reproché à ce peuple d'avoir commis un péché contre Israël, mais qu'est-ce qu'il leur est reproché ? Dieu annonce un jugement contre Moab et contre les Moabites. Mais qu'est-ce qu'il leur est reproché ? C'est qu'il a brûlé, ils ont brûlé, calciné les os du roi d'Édom. Ils ont profané une sépulture jusqu'à vouloir faire disparaître la mémoire du roi d'Édom. Notre Dieu montre par là l'importance du respect pour les morts et de leur mémoire. Respectons les morts et leur mémoire, mais pas un culte aux morts, mais un profond respect pour ceux qui sont morts et pour leur mémoire. Je ne sais pas si ça vous a frappé dans tous les textes qu'on vient de voir, ces 6 pays, ces 6 prophéties, il y a comme un refrain qui revient. À cause de 3 crimes, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision. Ce refrain, c'est une formulation littéraire hébraïque. Les Hébreux, ils utilisaient cette formule pour dire « c'en est trop ». La limite est dépassée. Les fautes sont nombreuses et répétées. Elles ont dépassé la limite. Dieu a patienté, mais maintenant le seuil est franchi. Le jugement est imminent. Alors, au langage d'aujourd'hui, on pourrait dire, bon, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça suffit, vous êtes allé trop loin. C'est ce que veut dire cette formulation. Alors, qu'est-ce que nous enseigne ce qu'on vient de lire, hein, au-delà des quelques réflexions qu'on a faites au fur et à mesure, mais qu'est-ce que nous enseignent ces textes ? Eh bien, j'ai relevé 2 choses principales. La première, c'est que la patience de Dieu a une limite. Et la deuxième, c'est que Dieu fait toujours justice pour tous les peuples, pour toutes les autorités et pour tous les êtres humains. On peut avoir cette certitude. Dieu n'est pas insensible à ce qui se passe dans notre monde. Tôt ou tard, justice de Dieu sera faite. Alors notre Dieu, c'est un Dieu de grâce. On le voit des premières pages jusqu'à la fin de la Bible. Notre Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. Il désire toujours la repentance de l'homme. Et il use beaucoup de patience, jusqu'à ce que les hommes soient repentis, se repentent. Dans Timothée 2:4, on peut lire, « Il désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Dans 2 Pierre 3:9, on peut lire, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, un Dieu de relation. Il désire toujours retrouver cette relation d'amour avec chaque être humain. On le voit sur la timeline, juste un petit peu avant, Amos a vécu Jonas. Jonas qui est parti, qui a refusé d'obéir à Dieu, qui a fui, mais que Dieu a repris et a dit « Va à Ninive, parce que là, je vais juger ce peuple et Ninivite. » Parce qu'ils commettent des actes pour lesquels je ne suis pas d'accord, mais je ne veux pas qu'ils périssent. Va leur parler pour qu'ils se repentent. Et Jonas n'a pas voulu y aller au début, mais finalement il y a allé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple s'est repenti des Ninivites, et Dieu a fait grâce. Dieu fait toujours grâce pour le cœur qui se repent, toujours. Mais qu'est-ce qui se serait passé s'ils ne se seraient pas repentis, les Ninivites, vous pensez? Il y a une limite à la patience de Dieu. Un jour, Dieu dit stop, ça suffit, c'en est trop. La grâce prend fin et le jugement de Dieu vient. On peut le voir bien avant avec l'histoire de Noé. Les gens faisaient le mal sur la terre, vraiment beaucoup de mal. Et Dieu a préparé un jugement. Noé a construit l'arche pendant plus de 80 ans. Ça a été un témoignage pour tous les gens d'alentour. Ils auraient dû se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Ils se sont sûrement moqués de lui. Ça aurait dû les pousser à la repentance, mais non. Et un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas Noé qui a fermé la porte de l'arche, c'est Dieu. Vous pouvez le lire dans la parole. Dieu a fermé la porte de l'arche. Son jugement s'est accompli. Les écluses se sont ouvertes. Terrible jugement. Heureusement qu'il a promis qu'il ne fera plus ça. Mais la justice de Dieu s'accomplira pour tous les hommes. La deuxième chose, c'est que Dieu fait toujours justice pour tous les peuples, toute autorité et tous les êtres humains. On a vu que Dieu a fait justice pour ces 6 peuples aux alentours d'Israël. Parfois, Dieu fait justice tout de suite sur cette terre. Parfois, ça prend un peu plus de temps. Et puis parfois, il faudra attendre dans l'éternité, dans le ciel, pour que justice sera faite. Mais ça, c'est sûr, un jour, il y aura justice. Hébreux 9, 27 le dit, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Alors la justice de Dieu, ça nous pousse à quoi? Avoir peur de lui? Ça pourrait, hein? La justice de Dieu, plutôt, devrait nous pousser à le craindre, c'est-à-dire un profond respect pour lui, à prendre les choses au sérieux, mais pas avoir peur de lui. Et la justice de Dieu, le fait de savoir que Dieu fait toujours justice, eh bien pour chacun d'entre nous qui croyons en lui, ça devrait être un puissant encouragement. Parce que quand on vit la justice, on peut être sûr que tôt ou tard, justice sera faite. Romains 12, 19 nous encourage à cela. « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Plaçons notre confiance en Dieu. Ça ne doit pas être un oreiller de paresse. Quand on peut faire quelque chose pour que justice soit faite, il faut le faire. Mais sinon, plaçant de toute façon notre confiance en Dieu, sachant que Dieu, quand on vit l'injustice, lui va faire justice. On peut aussi voir dans les textes qu'on a vus que lorsque Dieu exerce ses jugements, il les exerce sur les autorités, sur les peuples, sur les pays. On a vu qu'il exprimait des jugements sur le roi, sur un juge à un moment donné dans un texte, sur les chefs du peuple. Cela souligne aussi l'importance, comme le dit Paul à Timothée, dans 1 Timothée 2:12, J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Prions pour nos autorités, c'est important, pour que l'on puisse vivre en paix, pour que l'on puisse vivre notre foi. Prions aussi pour ceux qui déraillent dans ce monde. J'aimerais vous apporter une dernière réflexion pour terminer ce message. Et j'aimerais commencer cette réflexion par une question. Est-ce que vous êtes des chrétiens équilibrés? C'est important l'équilibre, hein? L'équilibre alimentaire, l'équilibre psychique. Mais spirituellement, est-ce que vous êtes des chrétiens équilibrés? Est-ce que vous avez déjà fait cette réflexion que tout dans la création de Dieu est parfaitement équilibré? Tout dans la création. Le soleil, la terre, elle a une distance juste parfaite. Elle serait trop près, on cramerait. Elle serait trop loin, on gèlerait. C'est un équilibre incroyable. Un oiseau qui vole. Un oiseau, il est attiré par la terre, par la loi de la gravité que Dieu a mis sur pied. Mais son profil d'aile lui permet d'avoir une force qui le tire vers le haut. Et il y a un équilibre quand il vole tout plat, comme ça, ben, il a l'équilibre parfait entre ces deux lois. Notre corps, c'est incroyable. Notre corps, c'est une machine biochimique extraordinaire, avec un équilibre incroyable. Et il suffit qu'on dérègle un petit peu quelque chose, puis ça y est, on est tout mal fichu. Hein? Un enfant qui veut marcher, il doit apprendre l'équilibre. Hein? Et c'est juste un équilibre incroyable quand on marche. Parce qu'on n'est pas stable, on est sans arrêt en déséquilibre. Mais notre cerveau a appris à marcher de manière équilibrée. Et dans la parole de Dieu, c'est pareil. Dans la parole, c'est pareil. Il y a des équilibres extraordinaires. Et je prends un équilibre pour terminer ce message. C'est l'équilibre entre l'amour de Dieu et la justice de Dieu. L'équilibre entre l'amour de Dieu et la justice de Dieu. L'équilibre entre la grâce et le jugement. On l'a vu tout au début de message, hein? Depuis toute éternité, quand Dieu y regardait l'avenir de l'humanité et qu'il voyait tous les possibles et qu'il a composé l'histoire, Jésus a dit à son Père, « J'irai à ce moment-là pour accomplir ta justice. » Et là, le parfait équilibre a été trouvé entre la justice et l'amour, entre la souveraineté de Dieu et la liberté de l'homme. Quelle grandeur de Dieu, quelle sagesse infinie. Alors si je vous demande quel est un des versets les plus connus de la Bible, je pense que pour beaucoup vous diriez Jean 3,16. C'est un verset très connu. Mais est-ce qu'on va jusqu'au bout de ce chapitre quand Jésus est allé voir Nicodème? Il ne s'est pas arrêté à Jean 3,16. Alors je vous propose qu'on lise les versets suivants. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. quel équilibre parfait entre la justice et l'amour de Dieu, entre la grâce et le jugement. Il est question d'amour, d'incroyable patience, de grâce, mais également de justice et de jugement. Hébreux 3,15 nous dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, c'est encore le jour du salut. C'est encore le temps de la patience de Dieu. L'homme peut encore se repentir, se tourner vers Dieu pour être réconcilié avec lui en Jésus-Christ. Mais on doit aussi le dire, parce que c'est le message de Dieu, qu'un jour, et ce jour approche, Dieu va dire stop, ça suffit, et il va juger le monde. Voilà, on peut toujours être sûr que notre Dieu fait justice pour tous les peuples, pour toutes les autorités, pour tous les êtres humains. C'est une certitude. Dieu ne regarde pas ce monde et il s'en fiche. Dieu n'est pas insensible à l'injustice, mais il fait toujours justice. Soyez bénis.